vais vous faire un petit éclairage sur la charte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, d'un point de vue historique, on a sauté les deux pieds joints dans le parc. Et cette aventure, elle a commencé dans les années 70. Et ce qu'il faut dire absolument, c'est que cette aventure, elle est pas du tout linéaire et qu'elle se renouvelle à chaque fois. C'est-à-dire qu'un parc n'est pas parc pour toute la vie. Mais on renouvelle donc là, en ce moment, tous les 15 ans, une charte de parc. Donc, finalement, on retravaille sur le projet de territoire, sur la manière dont on va traduire les enjeux du territoire en orientation et en action. Et on en est à un tournant assez important, puisque ce document, qui est à la fois un contrat et un outil, est en pleine étude et analyse par les ministères. Et donc, on est tout au bout d'un processus qui est très long, puisqu'on a commencé en 2018. Donc, Pierre-Louis, tu n'hésiteras pas à m'arrêter si tu veux faire des compléments, puisque sur ce dossier, voilà, il y a eu beaucoup de travail commun. Je vais essayer déjà de un tout petit complément par rapport à la présentation du territoire. Donc, la charte, c'est un outil qui vise à établir dans un premier temps la photographie du territoire. Qu'est-ce que c'est le territoire ? Donc le Vercors, on l'a dit, hein, c'est pas une unité tout à fait homogène, mais c'est bien plusieurs territoires complètement complémentaires entre les espaces urbains, les espaces montagnards. Je m'attacherai peut-être plus à détailler la carte de droite. Vous avez la carte de droite, un ensemble de symboles. Alors, même si vous n'arrivez pas à lire, c'est pas très important. L'important, c'est de voir à travers ces symboles la manière dont les polarités, alors c'est un mot qu'on utilise assez souvent en géographie pour montrer où sont les points d'attraction du territoire. Donc on a beaucoup parlé de Saint-Jean et de Pont-en-Royans, vous les avez tout à gauche. La Chapelle, évidemment, comme chef-lieu de l'ancien canton de la Chapelle en Vercors, et d'autres chefs-lieux au nord et au sud du Vercors, que sont Die et Villard-de-Lans, Lens-en-Vercors et Autremerdre. Donc on a quelques polarités à l'intérieur même du périmètre du parc, et on a tout autour du parc, évidemment, des tropismes qui font à la fois pour les activités économiques ou pour le tourisme, enfin pour tous les sujets qu'on va traiter, des attractions soit vers la montagne, soit vers les agglomérations. Voilà, que sont Valence et Grenoble, Romans et toutes les petites villes qu'on voit. Alors, sur cette carte aussi, on ne le voit pas très bien, mais les petits symboles noirs à l'extérieur du territoire, ça aussi c'est important dans les parcs régionaux, il y a ce qu'on appelle les villes-portes. Les villes-portes qui sont finalement ces villes à proximité du territoire avec lesquelles un lien s'est tissé de longue date. Et donc vous allez avoir tout le long. Romans est ici, voilà. On va avoir Vinay, on va avoir Saint-Marcellin, voilà, et puis Grenoble évidemment, et Mince bientôt aussi. Et Cré, oui, merci. Cré tout au sud du massif. Voilà, donc l'idée c'est de vous dire que le territoire se construit aussi avec cette diversité et ces relations qui sont à la fois à l'intérieur même du massif, mais aussi à l'extérieur. Je voulais m'arrêter sur un des éléments de la charte du parc. Il y a énormément de travail cartographique qu'on fait à la fois pour montrer les dynamiques du territoire, mais aussi pour construire le projet. Donc là, c'est un exemple, hein, on ne va pas le lire ensemble, mais c'est juste pour vous dire que dans une charte de parc, c'est un ensemble de documents, un peu comme les schémas de cohérence territoriaux, si vous les connaissez, c'est un ensemble de dossiers. Et dans ce dossier, il y a à la fois des documents cartographiques et des documents textuels, voilà, tels qu'on les connaît. Une charte de parc, ça comprend un plan de parc. C'est la pièce maîtresse qui va définir un certain nombre à la fois d'orientations et d'enjeux territorialisés. Alors c'est important, et j'ai peut-être oublié de dire aussi, c'est que les services de l'État qui sont à l'œuvre pour nous aider aussi à avoir ce label, sont très exigeants sur la qualité des documents. Et on va dire que depuis le parc a 5 ans, un peu plus de 50 ans, en 50 ans, on a fait de nombreux progrès, mais le niveau d'exigence n'a fait que s'accentuer. C'est-à-dire qu'on demande à un territoire de parc et aux élus locaux et aux équipes techniques que ce niveau d'exigence soit toujours plus élevé et plus important. Donc, pour vous donner une idée de la complexité de la carte, hein, la légende traite à la fois des questions de biodiversité, de corridors, d'urbanisme. On va avoir également des choses qui concernent l'occupation du sol, la question des trams bleus, j'en ai parlé déjà. Voilà, essentiellement des enjeux qui vont se traduire de manière à venir aussi influer sur les projets d'urbanisme des intercommunalités et des communes, par le lien de compatibilité. Je ne vais pas trop me perdre sur ces... Si vous voulez, on en discutera après, mais c'est quand même important de se dire que la charte, c'est un outil, mais c'est aussi un contrat qui est signé entre les communes et les intercommunalités. Et ce contrat, il se définit à travers des documents cartographiques, notamment. Ensuite, je voulais vous faire un petit focus sur quelques mesures qui vont vous intéresser, qui sont plus dans le sujet de votre rencontre. Donc, quelques mesures. Donc, il faut savoir qu'il y a trois axes à cette charte. Le premier axe, il est plus lié sur la vie, on va dire la vie quotidienne. Le deuxième axe, sur la question des transitions. Voilà, on est attendu sur ce sujet, hein. Bon, voilà, on a encore les chiffres de ce mois de septembre qui dépassent toutes les prévisions du GIEC. Et le troisième axe, qui est plutôt la question du partage. Donc la question des valeurs et du partage et de la solidarité. Donc sur premier axe, je vais vous donner une mesure en exemple, qui est finalement la première mesure et qui s'intéresse à la question des paysages. Très important, c'est-à-dire qu'à la naissance des parcs régionaux, enfin la naissance, on va dire encore plus de manière approfondie depuis les années 90, le paysage est finalement à la fois constitutif des parcs régionaux, c'est-à-dire que c'est entre guillemets la force et l'image qu'on a des parcs régionaux, c'est des paysages de qualité. Donc cette mesure-là, elle a trois objectifs, c'est la question de la connaissance des paysages. Et la connaissance des paysages, c'est jamais un travail qui est fini, qui est achevé, puisque ces paysages sont dynamiques, et que c'est un outil de mobilisation assez incroyable pour venir travailler sur les conflits d'usage. On en a parlé tout au début, là, en aparté. Aujourd'hui, les conflits d'usage, ils sont nombreux, tant sur l'occupation de l'espace que sur les différentes activités qui peuvent entrer en conflit. Donc l'idée, c'est que le paysage soit un outil de mobilisation. Le deuxième objectif de cette mesure, c'est la question d'éviter l'évitement de la banalisation des paysages. Alors, comme on va dire partout en France, la question de l'uniformisation des paysages existe aussi dans le Vercors. Donc l'idée, c'est de savoir comment on construit nos villages, comment on construit nos paysages, tout en gardant l'idée qu'ils sont dynamiques, mais on construit ensemble la manière dont ils évoluent. Le troisième objectif, qui est l'accompagnement des collectivités dans les dispositifs de signalétique et publicité. Ça a l'air d'être un détail comme ça, mais les parcs régionaux ont finalement assez peu. J'ai parlé d'un contrat, mais dans ce contrat, il y a quelques obligations, notamment la question de la publicité et de la signalétique, ce qui en fait un élément important de la charte, où là, on est obligé de travailler ensemble, déjà pour faire attention à ce que la pub ne fleurisse pas sur les territoires de parc, puisque ça, c'est une obligation légale. Et j'en finirai là pour cette mesure. Autre élément, je vous ai parlé de la charte comme outil. Une récente loi, la loi biodiversité, nous a amené, nous les parcs, à ajouter à ce dossier qui est déjà assez important, ce qu'on appelle les objectifs de qualité paysagère. Alors, il a fallu tout inventer, puisque c'était plutôt une intention du législateur de dire les SCOT sont obligés de le faire maintenant aussi, mais les parcs régionaux sont obligés d'intégrer dans leur charte les objectifs de qualité paysagère. Donc c'est un exercice qui était nouveau pour nous et donc nous, collectivement et au moment de la concertation, ça a été un moment très important, c'est-à-dire qu'on a relevé ce qui était des problématiques qui étaient redondantes. Voilà. Est-ce que la question, par exemple, des dessertes forestières et de l'intégration de ces dessertes forestières dans le paysage était importante pour les gens, à la fois pour les socioprofessionnels du tourisme, mais aussi pour les habitants ou les élus locaux. Voilà, donc il y a 25 sujets qui ont été listés comme ça, pour lesquels on a illustré finalement les premières intentions, enfin, le démarrage des intentions qu'il fallait avoir. Donc je vous ai sélectionné la neuvième, qui est veiller à l'intégration des nouveaux éléments bâtis. Donc là, on donne un certain nombre d'objectifs, on va dire, vraiment préalables au projet. Et bon, on ne va pas les lire là, hein, c'était juste à titre d'exemple, mais par exemple, on parle de l'acquisition foncière, le contexte paysager, la question des formes urbaines. Voilà, les principes d'aménagement vont-ils permettre une bonne inscription dans la pente, enfin, des choses qui sont importantes pour nous à la montagne. Et qui sont importantes aussi dans le contexte dans lequel on est, enfin dans le Vercors.
Je vais juste me permettre, excuse-moi, oui. Il va nous rester 10 minutes.
10 minutes, ben voilà, je finis.
Pour pouvoir évoquer un peu les enjeux d'aujourd'hui aussi de okay. Ce territoire.
Donc je fais très vite sur les mesures. Donc là, il y a d'autres mesures qui concernent l'urbanisme. L'équilibrage du foncier, ça c'est pareil, c'est une exigence qui nous est donnée par le législateur. Donc c'est savoir comment on le traduit dans le Vercors. Donc l'équilibre du foncier vise à être traduit dans les documents d'urbanisme et vise à être traduit aussi sur les questions de forme urbaine. On est évidemment, comme vous le savez dans l'actualité, tous émus par cette question du ZAN. Les parcs régionaux ne passent pas à l'AS, donc on est aussi dans le tourbillon de cette loi et dans les obligations qui s'imposent à nous. L'idée dans les parcs régionaux, c'est de savoir, plutôt que d'être dans la dimension chiffrée de la chose, d'être plutôt sur la dimension qualitative. Et je vais faire juste un petit focus sur les quelques mesures qui concernent plutôt la solidarité. Donc, il faut savoir que dans les parcs, historiquement, il y a quand même une forte, un fort penchant pour les actions dans le domaine de la culture et du patrimoine. Donc là, l'idée, c'était aussi de savoir comment, à l'avenir, on se dirigeait vers ces actions-là. Donc, on a réintégré les questions d'initiatives solidaires avec les coopérations et l'entraide. Ce qui se passe autour de... Voilà, alors je prendrai les recycleries, mais c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. La question des risques d'isolement pour la population et l'intégration des nouvelles populations. Très important sur la dimension des conflits d'usage. Intégrer que les nouvelles populations s'inscrivent dans un territoire qui a un passé, un avenir, et que les problématiques doivent leur être annoncées, expliquées, pour qu'ils comprennent un certain nombre d'enjeux qui s'inscrivent à côté de chez eux. Je fais vite, Isabelle, excuse-moi, je cherche mes mots. Et évidemment, les questions d'animation culturelle, ça aussi, c'est un fort enjeu pour les parcs régionaux. En Vercors, on a la chance d'avoir, comme l'a dit Pierre-Louis, une histoire très, très riche, depuis la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine, c'est de savoir comment ces éléments de richesse peuvent être support aussi d'éducation et de compréhension des enjeux actuels. Voilà, donc les questions, enfin, il y a trois objectifs à ça, c'est faire connaître les différents patrimoines du territoire, sans distinction, hein, on ne s'interdit rien sur la question des patrimoines, s'appuyer sur la culture pour questionner le lien homme-nature, et favoriser la transmission et l'évolution d'une culture commune au Vercors. Et j'en finis là. Hop.
Merci. Alors, ce qu'on va peut-être m'en proposer, puisqu'il reste un temps très court, c'est plutôt de rentrer un petit peu en échange. Si vous avez des questions, en fait, ce qui était prévu, bien sûr, pour terminer cet échange avant de laisser le mot de la fin à Pierre-Louis Fillet, c'était un peu ce territoire face aux enjeux d'avenir sur les questions d'adaptation au changement climatique, la question de l'habitabilité. La question des friches, c'est aussi toute sa diversité. Donc voilà un petit peu quelques mots-clés à voir. Donc est-ce que vous avez un petit peu des questions, soit par rapport bien sûr à ce qui vient d'être présenté, soit justement un peu sur ce devenir et la manière dont le territoire s'organise par rapport à ces enjeux d'aujourd'hui, voilà, qui nous permettrait d'avoir un échange et non pas une information descendante. Je passe le micro à qui le souhaite.